On va s'intéresser à la haftara de la semaine Tazria, qui est directement en relation avec le thème majeur de la paracha de la semaine, qui concerne la tsahara. On va revenir là-dessus. C'est une sorte de maladie souvent nommée lèpre dans les traductions, mais ce n'est pas une lèpre. Nous allons aborder d'abord la relation avec la paracha, ce qui nous permettra de présenter la tsahara. Puis l'histoire du général syrien devenu consulter un prophète d'Israël. Alors commençons, si vous voulez bien, par le sujet de la paracha, puisque le sujet de la paracha tourne autour de cette maladie. Selon les approches spirituelles, selon le judaïsme, le corps peut exprimer un déséquilibre intérieur. C'est ce que nous explique notamment le Rambam, qui était médecin en plus, comme on le sait, et qui expliquait que l'âme et le corps sont liés. Un trouble de l'âme peut affecter le corps. Une manière de comprendre cette affirmation de nos sages, on peut aller la chercher dans la médecine. Aujourd'hui, il est connu que des troubles psychosomatiques existent lorsque des émotions non exprimées ou un stress prolongé provoquent des symptômes physiques. Bon, par exemple, trop de stress va activer le système nerveux, qui va mettre en route une sécrétion d'hormones, du cortisol, de l'adrénaline, etc. Puis, il va en découler une inflammation ou des tensions musculaires ou des dérèglements. Donc, on peut, à partir de cette indication moderne, il y a effectivement une relation entre le corps et l'esprit. On comprend que l'affirmation de nos maîtres et notamment du Rambam, comme quoi l'âme et le corps sont liés et qu'un trouble sur l'âme peut déborder sur le corps. Tout cela donc permet de, disons entre guillemets, de rationaliser un sujet que l'on a a priori du mal à comprendre. Car cette maladie-là dont parle la Torah, la tsaharat, c'est un mal très particulier. C'est un concept, en fait, que l'on traduit à tort par lèpre. En réalité, ce n'est pas biologique. C'est un phénomène qui se manifeste physiquement. Et il est décrit justement dans la Torah, dans les deux parachas dont on vient de parler, Tazria et Metsora, qui sont lus ensemble cette année. On a donc affaire à une affection spirituelle, surnaturelle pourrait-on dire, envoyée comme signal. Un signal, attention, quelque chose ne va pas, il faut changer de comportement, et bon, il y a cette réaction. Bref. En un mot, en quelques mots, c'est un symptôme extérieur d'un déséquilibre intérieur. Alors, elle apparaît, et on voit comme quoi les choses sont graduées, elle apparaît sur la peau, sur les vêtements, ou même sur les murs des maisons, avec en même temps une gradation. Le signal est d'abord envoyé sur la maison, ce qui est quand même, bon, une pierre, ça fait pas trop mal, une pierre malade, on peut plus la réparer. Après, les vêtements, ça se rapproche de l'individu. Et enfin, puis s'il comprend vraiment pas, s'il modifie pas son comportement, il est touché lui-même. Et on verra l'histoire de ce général syrien. Il va être profondément touché au point qu'il était dégoûtant, nous dit-on, sur sa vision. La vision de son visage était totalement dégoûtante. Et les sages vous expliquent que cette tsarat est liée à des comportements qu'ils ont listés d'ailleurs, la médisance, les paroles négatives, l'orgueil, la colère, l'avarice, la jalousie. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a réparation possible. C'est un signal psychologique en quelque sorte, mais la réparation est possible. Quelle est cette réparation? Elle nous est indiquée clairement. C'est l'isolement. L'isolement, la personne en question est envoyée hors du camp. Ça signifie, à cause de son isolement, on peut espérer qu'il démarre une introspection. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Etc. Il réfléchit sur lui, il se repent, il fait une teshuva et il guérit. D'où le retour à la communauté et à son corps propre. On a aussi donc on a un signal progressif, je l'ai indiqué, hein, de la maison jusqu'au corps ensuite, mais aussi un enseignement qui reste malgré la disparition de cette maladie spirituelle. On apprend quoi de cette Saharat? On apprend que nos paroles ont un impact réel, ce n'est pas du vent. Parole, dabar, c'est le même mot que chose en hébreu. Donc, un impact réel. On apprend aussi, et la médecine moderne nous apprend que c'est tout à fait pertinent, que notre corps peut refléter notre état intérieur, à tel point que ces fameuses maladies psychosomatiques peuvent faire vraiment du dégât, alors que c'est a priori pas lié à un véritable phénomène microbien, par exemple. Autre nouvelle, c'est que la réparation est possible. Ainsi, on a une maladie qui correspond à une déficience dans l'état spirituel de l'individu. La relation de l'Haftara avec tous ces sujets qui sont développés dans la paracha est évidente, puisqu'on voit le prophète Élisée. On sait qui est le prophète Élisée, n'est-ce pas? C'est l'élève du prophète Élie, Eliyahu HaNavi. Eh bien, le prophète Élisée va guérir miraculeusement ce général. Un général non juif, syrien, du royaume d'Aram, atteint subitement de cette maladie. Pas depuis très longtemps, quoi. Il a subitement eu cette maladie. Et c'était une personne très importante, hein, dans son royaume. Et il était, on pourrait dire presque, comme souvent dans ce cas, un peu orgueilleux. Il avait une grande renommée. Il était considéré comme un soldat d'une bravoure exceptionnelle. En fait, l'orgueil dans cette, même quelqu'un qui réussit parfaitement, éprouver un orgueil, c'est ridicule parce qu'on sait bien que ce n'est pas l'individu et ses mérites qui font réussir, c'est Hachem qui permet la réussite. Et le général en question, son fait d'armes qu'il avait rendu particulièrement célèbre, c'est que lors d'une bataille contre les armées du royaume d'Israël, hein, vous savez qu'il y a eu le royaume d'Israël qui, après, pendant le règne du fils de Salomon, il s'est séparé du royaume de Juda. Donc, il y a eu un royaume du sud, la Judée, et un royaume du nord, que l'on a appelé le royaume d'Israël, avec comme capitale Shomron. Eh bien, lors de cette bataille, c'était Ramoth-Gilad, il a tiré une flèche vers ses adversaires. Et cette flèche, Hachem a modifié sa trajectoire pour qu'elle vienne frapper le roi Ahab, le roi d'Israël. Et on est mort de cette frappe. Or, le roi Ahab, c'est un personnage qui était caractérisé par la haine de la religion d'Israël. Il avait épousé une idolâtre, une phénicienne, Isabelle, et il avait pourchassé les prophètes d'Israël, etc. Donc, sa peine est tombée, la flèche l'a touché, mais ce général s'en est enorgueilli. Il était un très bon tireur, il a réussi à toucher le roi lui-même. Après cet épisode-là, de temps en temps, comme Aram et Israël étaient en guerre, le général Naaman a lancé des incursions, de temps en temps, sur les terres du royaume d'Israël. Et il lui est un jour arrivé de ramener des captifs, et notamment une jeune captive juive qu'il a confiée à sa femme comme servante. Eh bien, à ce moment précis, sa vie a changé. Il a eu maladie dont on parle, la fameuse lèpre spirituelle, maladie de peau, et le Midrash nous enseigne que c'est justement à cause de la capture de cette jeune fille que la maladie la frappe. Le Midrash explique aussi que c'était une punition destinée à punir sa conduite hautaine. Or, cette jeune fille juive a remarqué, bien entendu, comme tout le monde, elle a remarqué que cette Sahara frappait le visage et le corps de Naaman. Et cette jeune fille, quoique élevée dans le royaume d'Israël, où régnait le fils de Ahab l'impie, donc Yehoram, qui en fait, pourrait-on dire, n'était même pas juif, puisqu'il descendait de Jézabel, la princesse phénicienne. Eh bien, Yehoram, fils de Ahab l'impie, a reçu une lettre. On y vient dans un instant. En attendant, cette jeune fille qui a grandi dans ce royaume-là avait conservé sa foi, la foi en Hachem, et la connaissance des traditions de son. Pourquoi? Parce qu'elle savait que cette affection, cette maladie, ne venait pas au hasard. Elle savait que cette maladie était nécessairement liée à une faiblesse d'ordre spirituel. Et effectivement, il suffisait d'entendre le général pour savoir qu'il était très arrogant et très orgueilleux. Elle a donc conseillé à sa maîtresse, c'est-à-dire à l'épouse de ce général, de donner un conseil à son mari pour sa, en vue de sa guérison. Bon, parce que personne, évidemment, ne connaissait comment guérir ce genre de choses. Et elle lui a dit, voilà, nous avons un prophète en Israël qui s'appelle Elisha, et lui saura soigner son mari. Donc, elle a dit, à défaut de Cohen, le prophète pourra jouer certainement ce rôle. Elle avait une grande foi, voyez-vous. Et donc, sa conduite, pourquoi a-t-elle fait ça? On peut se demander pourquoi elle a fait ça, au fond. Elle pourrait se dire, c'est bon, c'est celui qui m'a capturé, je me fiche complètement d'eux, tant pis. Non. Apparemment, elle n'avait pas du tout de conflit avec cette famille, avec la femme, sa maîtresse, puisqu'elle était devenue servante. Mais son but, c'était un but de l'Eshem Shamaïm, c'est-à-dire honorer Hachem. Elle voulait démontrer dans ce monde d'idolâtres que c'était des idoles dénuées de tout pouvoir qu'ils adoraient, et qu'au contraire, un prophète juif pourrait guérir alors que personne d'autre ne pouvait le guérir. Elle a su déduire qu'il était indispensable de procéder à un changement de comportement de ce général pour qu'il puisse être guéri. Et elle lui a donc conseillé d'aller en personne, modestement, implorer le prophète. C'était son conseil. Bon, la femme de Néaman ne savait pas si ça tenait la route, hein, comme on dit ceci, mais bon, elle en a fait part. C'est quand même une nouvelle. Quelqu'un a affirmé qu'il allait être possible que ce grand général serait guéri, alors qu'il était vraiment affreux. Et lui, en tant que grand patron de l'armée, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est parti en grand équipage vers Shomron, la capitale de la Samarie, c'est-à-dire d'Israël, en fait, avec une lettre de recommandation de son roi pour Yehoram, successeur de Ahab l'impie. Dans cette lettre, le roi, il ne faut pas oublier qu'il venait de tuer le roi précédent, donc il se sentait quand même très fort. Il faisait de temps en temps des incursions. Donc il se sentait vraiment très fort et menait le jeu, menait la danse, comme on dit. Il lui a écrit une lettre très arrogante en lui disant, à présent, lorsque cette lettre te parviendra, voici, je t'ai envoyé Naaman, mon serviteur, tu le débarrasseras de sa maladie. Le roi d'Israël était embarrassé par cette requête. Il a même cru que c'était une ruse pour les attaquer. Comment un roi voisin d'un état voisin, d'un royaume voisin, lui demande à lui, un roi, pas un médecin, un roi, de guérir un des serviteurs de l'autre? Il y a eu un moment où il a été bien embêté. Et de plus, le roi d'Aram, c'est-à-dire de Syrie, avait bien prescrit qu'il fallait que le prophète Elisha intervienne. Vous vous en doutez que ce roi d'Israël était en bien mauvais termes avec Elisha, car comme son père, il avait été critiqué par Elisha, puisqu'il n'a pas du tout remis en place la foi d'Israël, mais il a permis aux idoles de se développer, encore que on avait eu, dans une autre paracha, on a vu que son peuple était revenu à Hachem après le sacrifice au Carmel. Bon, il était en mauvais termes avec Elisha. Comment faire pour lui demander, tiens, rends-moi service, le roi voisin m'écrit une lettre bizarre, et il faut que tu interviennes, sinon je ne sais pas quoi faire. Eh bien, sa situation s'est arrangée parce que Elisha l'a contacté en lui disant, bah, écoute, j'ai eu vent de l'objet de la visite, enfin de la lettre que tu as reçue, de la visite de ce général. Eh bien, je suis prêt à m'en occuper, puisqu'au fond, c'est cela qui est en question, on veut que je m'en occupe, je vais m'en occuper. Et il a écrit au roi pour lui dire qu'effectivement, il était disponible. Il voulait démontrer que malgré la défaite de Ahab l'impie, malgré le règne de son fils qui n'était pas meilleur, la présence divine résidait toujours parmi le peuple juif. C'était cela la motivation du prophète. Pourquoi faire cette guérison? En quoi cela pouvait être nécessaire, puisqu'au fond, la personne est une personne assez abjecte, orgueilleuse, etc., qui n'a pas fait du bien à Israël, à part qu'il a été utilisé comme chaliard pour tuer Ahab. Donc, on ne comprendrait pas. En fait, comme la raison de la jeune fille, c'était les Shem Shamaïm ont prouvé que les idoles étaient incapables, mais qu'au contraire, le Dieu d'Israël était puissant. De même, Elisha a voulu démontrer que la présence divine existait toujours dans le peuple de ce royaume. Et il a donc fait savoir au roi, laisse donc venir vers moi ce général, et que tout le monde sache qu'il y a un prophète dans le peuple juif. Évidemment, le roi était soulagé et Naaman a été instruit du fait que ça y est, on a trouvé le prophète qu'il voulait, il n'avait qu'à aller le voir et tout serait réglé. Naaman s'est rendu chez le prophète en grand équipage, transportant une fortune, et il y avait 6 000 pièces d'or à peu près, je crois, et un poids important d'argent. Il était persuadé qu'il allait, que le prophète, en tant que prestataire de services de santé, allait lui réclamer une somme considérable. Bien, pour éviter cette somme considérable, au contraire, il l'a prise avec lui par avance, une somme vraiment considérable, parce que sa santé valait bien ça. Mais on a donc un récit. On voit ce récit. Ce qui est intéressant maintenant, à côté de ce récit calé sur le roi d'Israël et sur le général, voyons maintenant, au contraire, l'attitude du prophète. Il avait les consignes du roi d'Israël, donc c'était quand même des consignes importantes. Il avait un patient, entre guillemets, particulièrement puissant et redoutable. Comment a-t-il réagi? Ben, tout simplement, il a laissé le général sur son cheval devant sa porte sans le recevoir. Il ne l'a pas fait rentrer chez lui. Il ne s'est même pas déplacé pour l'accueillir ou pour le bénir, etc. Donc, Naaman a été profondément vexé. C'est quoi, moi? Allons, je suis partout considéré. Et là, même pas on vient m'accueillir. On envoie un serviteur pour me donner une consigne. Et c'était quoi la consigne? C'était va et purifie-toi en te trempant cette fois dans le fleuve Jourdain. Le remède semblait délirant. Qu'est-ce que c'est? Je suis venu jusqu'ici. J'ai apporté des trésors. Et on me dit quoi? Va te tremper dans la rivière et tout ira bien. Mais j'ai pas besoin du Jourdain. J'ai assez de rivières en Syrie. Et c'est ce qu'il a dit, hein. Il a vraiment laissé éclater sa colère en disant, moi, j'ai d'autres fleuves. J'ai par exemple l'Amana, le fleuve Amana, qui a le nom d'une montagne, qui est citée par le roi Shlomo HaMelech dans Shirashirim. On dit à un moment donné, on cite cette montagne Amana. Il y a aussi encore une autre rivière qui tire sa source de l'Hermon. Bref, on ne manque pas de rivières pour aller se tremper. Je n'ai pas besoin du Jourdain. C'est les eaux de mes fleuves ne sont pas moins intéressantes que les eaux d'Israël.
Ce qu'il ignorait, c'est que le nom du Jourdain porte une allusion. La racine correspond à descendre, descente, yored. Et donc, c'était une allusion au fait qu'il lui fallait descendre de sa superbe et d'abandonner son orgueil, qui était la cause fondamentale de l'affection qu'il a reçue. Par ailleurs, le Jourdain, c'est une frontière d'Israël. Et donc, se plonger dans ce fleuve et pas dans un autre était une manière de dire, traverses une sorte de frontière intérieure, tu abandonnes tes dieux et tu rentres dans le domaine spirituel d'Israël, avec en particulier la reconnaissance du Dieu d'Israël.
Et donc, il était vraiment fâché, parce qu'il croyait que le prophète allait venir près de lui, le bénir, ou faire une imposition des mains sur les plaies. Bref, il pensait que c'était une cure avec un petit côté médical. Eh bien non, c'était pas du tout ça. En fait, ce n'est pas un magicien qui guérit, c'est Hachem qui guérit. Et ce n'est pas un homme utilisant des remèdes. On le sait toujours, même à notre époque, on dit toujours, c'est le médecin soigne, mais c'est Hachem qui guérit. Donc, il était dans une humeur pas possible, et ses serviteurs, peu à peu, ont réussi à le ramener à la raison. Ils lui ont fait admettre qu'au fond, et il est parti avec une ordonnance, hein. Il avait les consignes, tu te trempes cette fois dans le Jourdain, point. C'est une ordonnance, bon, c'est pas un sirop amer, c'est pas des cachets inavalables, c'est quelque chose de, au fond, de pas très compliqué. Ou ne pas le faire, essaye, qu'est-ce que tu risques? Bon, Naaman a opéré un petit changement dans son caractère, parce que jusqu'ici, il n'avait jamais jugé digne d'écouter une personne de rang inférieur au sien. Mais à ce moment-là, malgré la colère, un mouvement d'humilité est venu l'envahir et il a dit, bon, au fond, oui, je vais suivre cet avis. Il a été submergé dans le Jourdain comme le lui avait prescrit le prophète et il fut guéri. À partir de là, On comprend qu'il avait besoin de guérir son orgueil par une déconsidération, en quelque sorte. Et le prophète l'avait soigné aussi en n'allant pas l'accueillir, en lui disant « je ne veux pas tes cadeaux », etc. Sa maladie disparut et sa peau reprit un aspect sain. Et Naaman a compris, bien sûr, que c'était quelque chose de complètement miraculeux. Il s'est trempé 7 fois. Il n'avait plus cette peau affreuse. Il a donc eu un mouvement de foi et il a rejeté l'idolâtrie. Alors, ensuite, bien sûr, il a voulu remercier le Navi d'Israël, le prophète d'Israël. Il était très reconnaissant. Il a pris d'abord de très bonnes résolutions pour se rapprocher de Hachem qu'il avait guéri et il voulait donc apporter les fameux cadeaux au prophète. On en reparle après. On peut se poser une question. Le miracle de cette guérison spectaculaire l'a transformé. Et il a eu conscience du pouvoir d'Hachem et il a rejeté l'idolâtrie. Mais pourquoi tous ceux qui étaient avec lui n'ont-ils pas fait pareil? Après tout, eux aussi ont assisté au miracle. La réponse est que Naaman était seul à avoir vécu intensément ce moment. Cela l'a déstabilisé et il a était amené à s'incliner. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ce qui est autour de ce sujet. On me prévient que ça va bientôt cesser. Je voudrais dire, pour conclure, que Elisha, au moment où Eliaou, un habit monté sur un char et des flammes pour monter au ciel, parce qu'on dit qu'il n'est pas mort, eh bien, il a demandé, Eliaou, un habit, le maître d'Elisha, lui a dit, demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'ici. Et Elisha a dit, qu'il y ait, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi. Bon, il a demandé quelque chose de simple, hein. Je veux être un prophète 2 fois plus grand que toi, est-ce que c'est possible? Et le Tanakh nous précise, la Bible nous précise que les miracles d'Elisha furent effectivement 2 fois plus nombreux que ceux réalisés par son maître. Mais pourtant, quand on liste les miracles, il n'y a qu'un seul cas de résurrection pour Eliyahu Hanabi et il n'y a qu'un seul cas de résurrection pour Elisha. Alors on se dit, mais quoi? On lui a demandé 2 fois, on lui a donné 2 fois plus, et là il n'y a qu'une fois. En fait, la résurrection des morts, il l'a fait effectivement pour le fils de la Shunamite, c'est dans une autre paracha, une autre haftara. Mais donc on a un cas, ceux qui ont l'habitude de suivre les haftarot connaissent ce cas. Ou lisent le livre des prophètes. Eh bien, en fait, on a la réponse dans la Haftarah que nous sommes en train d'étudier. Parce que tout lépreux est considéré comme mort. La Guémara enseigne, dans le traité Nédarim, la Guémara enseigne que 4 personnes, 4 types de personnes, sont considérées comme mortes. Le pauvre, ça nous rappelle que Yaakov Avinu, quand il est parti pour Haran, a laissé toute sa richesse au fils de Ésav, en disant, ben, puisque je suis pauvre, ton père t'a dit de me tuer, mais je suis pauvre maintenant, donc c'est comme si je suis mort, tu as fait ce qu'il fallait. Donc, il y a la question du pauvre. Il y a lépreux aussi, également le non-voyant, et aussi, nous dit-on, celui qui n'a pas eu d'enfant. Donc le lépreux est considéré comme mort. Pourquoi? Parce qu'il est isolé, hors du camp, séparé complètement d'avec les vivants. Voilà donc pour le sujet. Bon, bien entendu, il n'agissait pas comme prestataire de services de santé, mais il agissait l'Hechem Shamayim pour démontrer qu'il y avait Hachem en Israël à cette époque, comme aujourd'hui, Bezrat Hachem. À bientôt.